BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Retrouvé dans cette page spéciale des rencontres économiques d'Aix-en-Provence, on a délocalisé notre studio ici pour vous faire vivre ces débats au sein du Parc Jourdan d'Aix-en-Provence. On a une heure et demie ensemble. Le thème de ces rencontres d'Aix, c'est comment naviguer dans un monde sans repères. Eh bien, ensemble, pendant une heure et demie, on va essayer de chercher, de trouver quelques boussoles. Pendant cette première heure, nous serons avec nos experts sans frontières, comme tous les vendredis. Ils sont venus ici à Aix en Provence. Ensemble, on va voir comment les entreprises sont percutées par les chocs géopolitiques, comment elles peuvent s'en prémunir. Est-ce que l'Europe et la France peuvent croire encore en la réindustrialisation? Dans une Europe sans boussole, justement, où est le couple franco-allemand? Le monde vieillit et fait moins de bébés. Ça, c'est un autre défi structurel qui n'est pas des moindres. On en parlera avec nos experts sans frontières. Et puis, de 19h à 19h30, on essaiera de chercher une boussole politique, cette fois avec la présidente de l'Assemblée nationale, voir ensemble comment on peut réconcilier les Français, regagner la confiance entre les Français et l'institution qu'elle représente. Une boussole énergétique avec le patron France de Schneider électrique. Et puis, une boussole climatique avec le directeur général de la Massif qui, lui, nous parlera du coût de l'inaction climatique. Mais tout de suite, on attaque avec les experts sans frontières. Juste avant, les infos avec Laura Cambeau. A tout de suite.
Et à la une de l'actualité aujourd'hui, les soutiens de l'Ukraine lui valident une aide militaire de 7 milliards d'euros, somme qui sera versée par les pays européens de l'OTAN et le Canada, à la fois cette année et l'an prochain. Aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Nicolas Dufourcq appelle à utiliser la dette française pour financer l'armement et non les retraites. Selon le patron de BPI France, ce qu'on met dans la baguette des Français, on ne le met pas dans les missiles qu'on pourrait fournir aux Ukrainiens. Toujours à Aix-en-Provence, sur le plateau de BFM Business, Roland Lescure salue les propositions du MEDEF pour redresser les finances publiques, une hausse de la TVA et de la fiscalité des retraités, des mesures qui contribueront au débat sur le budget et l'élection présidentielle. Dans le cadre de cette échéance électorale, la déclaration de Christine Lagarde aux Échos, la présidente de la Banque Centrale Européenne, affirme ne pas exclure un départ avant la fin de son mandat. En octobre 2027, elle envisage d'intervenir dans le débat présidentiel. Également dans l'actualité, la centrale nucléaire de Golfech reconnectée au réseau électrique national hier soir. Son seul réacteur en activité avait été mis à l'arrêt fin juin pour ne pas réchauffer le fleuve Garonne où elle rejette les eaux de refroidissement. Ces chiffres sur la canicule de juin, les deux tiers des Européens ont connu des températures supérieures à 35 degrés au moins une fois entre le 15 et le 30 juin. Cela représente 90 millions de personnes de plus que lors de la vague de chaleur de 2003. Du côté des entreprises, l'offre de reprise déposée par le groupe du financier Mathieu Pigas pour reprendre Fibre Excellence, un groupe papetier en difficulté, une offre à laquelle s'associent des fonds gérés par les régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis enfin, le placement en redressement judiciaire de la fonderie de Bretagne. Elle avait été reprise l'an dernier par Europlasma, le spécialiste des pièces en fonte pour les suspensions et les échappements qui emploie 245 personnes, a jusqu'au 17 juillet pour trouver 3 millions d'euros. Et puis on termine avec un point sur les marchés. Avec vous Antoine...
Oui.
Avec vous Antoine Larigauderie, le CAC 40 qui clôture en hausse.
Effectivement, Laura, plus 0,39% pour un CAC 40 qui verrouille les 8500 points. On clôture 8508 points et encore, on aurait pu faire mieux. Déjà parce que les volumes étaient relativement faibles. Il n'y a pas de séance à Wall Street cet après-midi pour cause de veille de fête nationale. Donc on est resté à 2,8 milliards, ce qui n'est pas beaucoup. Et puis on était ankylosé aussi par le secteur du luxe. Kering a perdu 1,6% à 248,45 €. L'Oréal, moins 1,42 €, 382,45 €. Et LVMH, moins 0,45 à 495,70 €. Stellantis signant la plus forte baisse de l'indice, moins 3,5 à 4,93 €. Cela dit, on a été soutenu quand même par ArcelorMittal qui gagne 5,9%, 58,60 €. Deuxième séance de forte hausse pour le sidérurgiste. Et puis les valeurs d'infrastructure, de rendement, Veolia plus 2,8, 37,51 €. Engie plus 2,06 à 27,73 €. Donc une hausse de 0,39 pour le CAC 40 aujourd'hui, loin derrière l'Eurostock 50 qui a quand même gagné 0,82%. Enfin, l'indice phare de la Bourse de Paris termine la semaine sur un gain d'1,4%.
Merci beaucoup Antoine. Et tout de suite, on vous retrouve Mathieu Jolivet en direct donc d'Aix-en-Provence pour les Experts sans frontières.
BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez. Ils sont autour de moi, nos experts sans frontières. Ils sont venus ici sur notre plateau délocalisé aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Nous sommes avec Madoka Kitamatsu, la chef du bureau du Nikkei à Paris. Bonjour Madoka. Et bienvenue. Nous sommes avec Frédéric Hoffmann, la correspondante du Handelsblatt en France, qui est aussi ici avec nous à Aix. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous êtes la bienvenue. Nous sommes aussi avec Niklas Zabogi, le correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Bienvenue.
Bonjour.
Et puis, nous accueillons pour la première fois dans le cadre des Experts sans frontières, Maëline Camus, présidente de Prisme Intelligence. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Voilà, je rappelle, Prisme Intelligence est un cabinet de renseignement économique. On peut le dire et on n'en dira pas plus, mais vous étiez avant agent opérationnel au sein de la DGSE. Donc vous avez travaillé dans le renseignement.
Exactement, c'est ça, à l'armée.
À l'armée, renseignement militaire.
Exactement.
Maintenant, vous êtes revenu à la vie civile.
Exactement, et dirigeant de l'entreprise désormais, d'un cabinet de renseignement qui va justement faire du renseignement pour les entreprises.
Voilà, et donc les Experts sans frontières n'ont peut-être jamais aussi bien porté leur nom. C'est tellement sans frontières qu'on ne connaît même pas vos frontières et on ne les connaîtra pas. En tout cas, on est très heureux de vous accueillir et d'avoir aussi votre regard sur les tensions économiques, les écueils que peuvent rencontrer les agents économiques dans ce monde aussi instable et perturbé, car c'est bien ça qui nous préoccupe aujourd'hui. C'est la 21e année qu'ont lieu les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je crois que jamais il n'y a eu autant de monde, jamais ça n'a été aussi international. Et donc ce thème, c'est un monde qui navigue en recherche de repères. Hein, on va essayer ensemble de comprendre, ou en tout cas de trouver des boussoles pour s'y retrouver. Peut-être déjà, Frédéric Hoffmann, le sentiment général, moi c'est un sentiment que j'ai personnellement depuis un an, on voit que la géopolitique s'accélère à vitesse grand V et que tous les chefs d'entreprise que je vois, moi, ici en France au quotidien, semblent subir les chocs géopolitiques, ne les ont pas assez anticipés. Est-ce que vous voyez ça aussi, vous qui couvrez l'actualité économique pour votre journal allemand en France ?
Je crois les problèmes géopolitiques, ils étaient là les dernières années, mais ce qu'on voit maintenant avec la guerre en Iran, que ça accélère énormément, et aussi les conflits avec les États-Unis concernant le commerce, ça a vraiment accéléré le problème. Et ce que j'ai entendu ici quand j'ai parlé au Monde, ici, que c'est un bruit de base qui influence maintenant toutes les décisions des chefs d'entreprise qui sont ici. Mais aussi ce qu'on a entendu ici, même si c'est un nouveau monde dont on agit maintenant, ça donne aussi un peu optimisme qu'on peut gérer la situation. Alors, c'est pas perdu, mais il faut pas juste subir, comme vous avez dit, mais il faut créer l'avenir. Et c'est le moment maintenant.
Ne pas subir et créer l'avenir. Maëline Camus, vous qui êtes dans le renseignement économique et qui accompagnez les entreprises pour essayer d'y voir un peu plus dans cette purée de pois, pour reprendre une expression maritime, effectivement, anticiper, c'est peut-être le principal enjeu qu'on n'avait pas forcément vu venir, ou en tout cas qui s'est imposé plus vite que prévu.
Effectivement, anticiper permet justement d'anticiper, mais de prévoir. Et aujourd'hui, on pousse, et je pousse les dirigeants d'entreprise à s'intéresser à la géopolitique de plus en plus. C'est extrêmement important pour pouvoir justement prévoir les nouvelles menaces économiques dans un monde de plus en plus interdépendant, où on doit aussi choisir ses dépendances. C'est le sujet de souveraineté économique pour les entreprises françaises. Anticiper, c'est la clé pour pouvoir se positionner et éviter d'être pris à dépourvu.
C'est ça, et un monde interdépendant. Ce qui est peut-être aussi intéressant, et c'est peut-être une des explications, une des racines qui explique aussi la crise qu'on traverse aujourd'hui, ça a été le choc du Covid en 2020 qui nous a fait prendre conscience aussi des fragilités de nos interdépendances. C'est-à-dire qu'avant, pour nous, jusque jusqu'au Covid, en gros, du lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au Covid, on a eu une mondialisation où on s'est dit, bah, finalement, plus il y a d'interdépendance, plus on est sécurisé. Aujourd'hui, l'interdépendance est aussi synonyme de fragilité, et ça, c'est nouveau aussi.
Mais c'est nouveau parce que ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on le remarque. Hein, attendre qu'il y ait une crise pour remarquer nos interdépendances, c'est quand même assez problématique. Et donc la genèse, c'est plutôt une absence de culture, culture de l'anticipation, culture du renseignement au sein des structures, des organisations, des entreprises et même au-delà des entreprises, des décideurs qu'on forme, les nouveaux décideurs, les décideurs de demain qu'on forme dans nos écoles. C'est donc une question de sensibilisation, d'anticipation à cette culture du renseignement économique.
Madoka Kitabatsu, vous qui êtes la chef du bureau du Nikkei en Europe, à Genève et à Paris, est-ce que vous aussi, vous constatez ou vous remarquez peut-être que le monde économique, les agents économiques subissent les chocs géopolitiques ?
Oui, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai senti très fortement pendant cette conférence. J'ai entendu le mot blackmail. Donc, c'est le sentiment qu'on est obligé de songer sans le vouloir. Alors, je pense que, comme Frédéric a déjà évoqué, il y a une manière plus optimiste d'aborder la situation actuelle. C'est de multiplier les interdépendances. Je pense que le problème de l'interdépendance, c'est surtout quand c'est concentré avec un seul partenaire. Et c'est ce qui est important, c'est de chercher des voies de coopération avec des pays ou des entreprises qui n'étaient pas nécessairement proches jusqu'à maintenant, mais qui ont les capacités de créer des choses nouvelles ensemble.
C'est ça, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
Oui, voilà. Et oui,
aujourd'hui, c'est ça. On est dans un monde où il faut absolument diversifier ses risques et ne pas avoir un seul canal de chaîne de valeur.
Oui, c'est ça, exactement.
Nicolas, comment est-ce que vous voyez aussi, je rappelle, vous êtes le correspondant de la Frankfurter Allgemeine Zeitung en France. Comment est-ce que vous voyez la manière dont les agents économiques sont percutés par ces chocs géopolitiques?
Alors honnêtement, je pense les chocs géopolitiques, ces crises sur la scène internationale, c'est pas ça le vrai sujet. Pour moi, le vrai sujet, c'est l'instabilité politique en Europe. Les politiques, notamment en France, fait pas son travail. Les problèmes budgétaires datent des années déjà. On n'a pas des moyens ici en France pour réagir à ces crises qui sont réelles, qui sont graves, qui sont difficiles pour les entreprises en interne. Alors délocaliser par exemple, c'est oui une super idée bien sûr, mais où investir en Europe si on n'a pas la stabilité politique, si la politique reste instable, s'il n'y a pas des solutions à ces problèmes budgétaires, etc. Ouais. Donc je pense que c'est ça le vrai sujet, hein. C'est pas...
C'est-à-dire que moi, mais c'est intéressant ce que vous me dites. C'est-à-dire que moi, je vous parle du blocage du détroit d'Ormuz, de l'agressivité ou de la guerre que mène Vladimir Poutine à l'est de l'Europe, qui fait ressurgir le spectre des grandes guerres. Je vous parle aussi de Donald Trump qui déroule sa doctrine d'Onro, de l'agressivité commerciale chinoise. Et vous me parlez de la dissolution en France. Et ce qui fait rire Madoka.
Ah oui, je veux pas sous-estimer les risques sur la scène internationale, bien sûr. Mais après, il faut être réaliste, hein. On peut pas changer le monde d'ici. Et ce qu'on peut faire, c'est réformer l'Europe, c'est réformer, intégrer l'Europe et réformer notamment ici la politique ou les sujets qui sont là, les soucis qu'on a ici en interne en Europe.
Ouais.
Ça peut changer.
Ouais. C'est-à-dire que pour vous, c'est ce que vous regardez en tant que correspondant aussi de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, c'est effectivement les élections présidentielles cruciales en 2027 et apporter de la visibilité, de la stabilité politique avec un budget qui soit clair. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre, j'allais dire.
Oui, mais j'espère vraiment qu'il ne faut pas attendre d'ici avril, mais l'année prochaine pour avoir des réformes, des réactions. Alors,
Alors vous savez que nous, Français, on sait être patients sur ce genre de sujet.
Allez-y maintenant. Non, mais c'est maintenant le moment où la politique doit agir, faire quelque chose, réformer.
J'entendais un panel qui était très intéressant aussi tout à l'heure avec le Premier ministre groenlandais, Frédéric Nielsen, qui d'ailleurs a commencé à parler en disant, il arrivait de Nuuk, il a fait Nuuk, Aix-en-Provence, en disant mais qu'est-ce qui fait chaud chez vous, hein? Donc ça a été un petit peu difficile pour le Premier ministre groenlandais, mais qui nous disait qu'il fallait absolument que l'Europe bâtisse un récit européen. un récit européen qui embarque avec lui des partenariats renforcés avec le Canada, avec le Groenland, etc. Frédéric, comment est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, un peu comme les entreprises subissent les chocs géopolitiques, on a aussi l'Europe qui subit des récits impériaux qui sont très bien rodés de la part de Vladimir Poutine, Xi Jinping, Donald Trump, et nous, on n'a pas encore notre récit en Europe?
Parfois, j'ai l'impression que l'Europe n'a pas encore compris dans quel danger nous sommes en ce moment et quelle importance ça a de tenir un corps ensemble. Et quand on voit ce que se passe aux États-Unis, en Russie, dans les autres régions du monde, c'est vraiment urgent qu'on parle avec une voix et pas avec plusieurs. Et ce qu'on voit, par exemple, comment on réagit à la guerre commerciale avec la Chine, on voit des différences en Europe qui sont énormes. Et je pense qu'on n'a plus la masse de manœuvre d'avoir des discussions pour des mois et des mois, des mois. On doit trouver les moyens de décider plus rapidement. Peut-être que ce n'est pas possible à 27, peut-être il faut trouver des autres formats pour des questions différentes, mais il faut trouver les moyens pour décider. Et je pense qu'on n'a pas encore compris qu'on a besoin de ça et c'est urgent.
Frédéric, je reste avec vous parce que je crois que vous avez animé un panel aussi ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec un autre enjeu majeur sur lequel on peut aussi nous phosphorer à notre tour, c'est celui de la réindustrialisation. En Europe en général et en France en particulier, peut-on espérer de réindustrialiser? Quelle était la tonalité de votre panel et que disaient les intervenants avec des profils high level qui étaient autour de vous?
Alors les chiffres sont frappants. Quand on voit au début des années 2000, il y avait 16% de PIB qui était le manufacturier, mais maintenant c'est 10%. Alors c'est vraiment une descente énorme. Mais ce qu'on voit en même temps, qu'il y a des projets qui sont intéressants. Parce que, par exemple, j'étais à Dunkerque il y a quelques semaines pour la vallée de la batterie. À Marseille, il y a des choses qui se passent. On a des procédures de fast-track pour raccorder les projets industriels stratégiques au réseau. Alors, il y a des choses qui se passent. Et ce que je trouvais intéressant avec les intervenants de mon panel, qu'on était un peu d'accord, l'Europe a tous les atouts, mais on n'arrive pas encore à le mettre ensemble. Un exemple, il y a beaucoup de capital en Europe, mais c'est sur les dépôts. Alors, il faut changer un peu ça. Et les marchés capitaux unis, c'est un des grands sujets qu'on a. Alors, il y a beaucoup des atouts. On a la technologie, l'éducation, on a tout ça. Et on a aussi les capacités de le faire, mais on ne met pas encore les cordes ensemble. Et je pense que ça, c'est un des tâches les plus importantes qu'il faut gérer maintenant.
Et vous, Madoka, comment est-ce que vous voyez justement les atouts européens sur lesquels on a du mal à capitaliser à 27? Mm-hmm. Comment est-ce que vous observez ça?
Alors, malheureusement, je pense que ça risque d'être encore plus difficile à partir de l'année prochaine, selon les résultats de présidentielle française. Parce que jusqu'à maintenant, on a bien vu que quand même le président français était assez influençant quand il fallait créer un consensus en Europe. Et ça risque de plus ne pas être le cas. Peut-être que ce sera plus le rôle de l'Allemagne de le faire. Mais je pense qu'il n'y a vraiment pas de visibilité dans ce sens.
Vous avez raison de le rappeler. Emmanuel Macron, quand il a commencé en 2017, lors de son premier mandat, il a fait son grand discours sur l'Europe de la Sorbonne. Et aujourd'hui, à la fin de son deuxième mandat, il y a beaucoup d'observateurs qui disent que finalement... C'est assez regrettable car c'était un discours où quelque part il était assez visionnaire sur la souveraineté, l'appel à la souveraineté européenne, mais qui une fois de plus est resté lettre morte, Niklas.
Exactement. Et les relations franco-allemandes sont dans un état très difficile, c'est connu. Et s'il n'y a pas d'accord entre les deux premiers pays, c'est impossible d'avoir une Europe vraiment unie, forte. Juste, je veux ajouter deux choses. Au début du mandat du président Macron, il avait deux choses. Il avait des réformes sur le marché du travail et des réformes sur les impôts. Et ces deux choses ont été des conditions sine qua non pour réindustrialiser la France maintenant, et l'Europe. Maintenant, sur les deux choses, on n'a pas de progrès, pas de réformes. C'est pour ça, pour moi, ça ne marche jamais. Ouais. Réindustrialiser sans attaquer la cotisation patronale, donc les charges sociales et après si on baisse pas les impôts, c'est impossible.
C'est ça, c'est
un investissement massif.
C'est ça. C'est-à-dire qu'avec vos lunettes de correspondant allemand, quand vous voyez un pays qui n'arrive pas en 10 ans à se mettre d'accord sur une réforme des retraites, il est hors jeu pour parler de réindustrialisation, c'est ça ?
Alors, réforme des retraites, oui, mais plein d'autres choses.
Oui, enfin, c'est un exemple de réforme structurelle.
C'est devenu un symbole, et c'est vrai, c'est la mère des batailles, bien sûr.
La mère des batailles. Pour revenir sur l'enjeu de la réindustrialisation, Maïline, est-ce que... Voilà, il y avait... J'ai écouté aussi ce panel qui était passionnant autour de Friedrich Hoffmann tout à l'heure. Il y avait une tonalité qui était quand même, je trouve, quand même assez positive, hein, dans le sens un diagnostic assez catastrophique. Il faut le dire, mais des raisons d'espérer. Est-ce que vous, en tant qu'acteur du renseignement économique à la tête de Prism Intelligence, qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, l'Europe en général et la France en particulier ont assez d'atouts pour booster la réindustrialisation ?
Alors moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, je pense que la France a une carte à jouer. Les patrons français, les patrons d'industrie français ont une carte à jouer. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à se décider sur nos réformes de retraite que la France ne peut pas se positionner sur la réindustrialisation déjà de notre propre pays et montrer l'exemple aussi pour l'Europe. Donc moi j'y crois encore. Le renseignement est un atout, est une clé parce qu'il permet d'anticiper, de faire face à la menace et aussi d'ouvrir un peu les écoutilles, de prendre de la hauteur de vue dans des décisions stratégiques. Donc c'est extrêmement important. Le renseignement apporte cette capacité aux dirigeants de décider avec lucidité. Aujourd'hui, les dirigeants français ont cette capacité d'avancer et de, bien sûr, évidemment, participer à la réindustrialisation de notre pays. Donc j'y crois et je crois fortement à ce que la France en soit capable.
J'ai l'impression, vous qui accompagnez aussi des dirigeants de PME, peut-être pour, comment dire, pour sécuriser leur environnement quand ils veulent investir et développer leur business, on va dire ça comme ça, j'ai l'impression qu'on a changé un peu de paradigme. C'est-à-dire qu'avant, pendant des décennies, c'est lié aussi à notre modèle de mondialisation, la priorité, c'était la compétitivité prix. Et justement, les nouveaux risques géopolitiques font que la compétitivité prix arrive presque au second plan. Aujourd'hui, il faut sécuriser son environnement, garder différentes options dans sa manche, garder une capacité de décision, et que ça devient presque plus important que la compétitivité prix. Est-ce que ça, c'est un diagnostic que vous partagez, ça ?
Tout à fait, c'est un tournant majeur, parce que pendant plus de 30 ans, on était vraiment sur l'externalisation, sur une rentabilité, sur de la compétitivité. Et aujourd'hui, en fait, on est sur une nouvelle ère où les enjeux de souveraineté sont de plus en plus présents. Et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'avoir une stratégie de résilience, hein, et de faire en sorte que on maîtrise les risques qui pèsent sur les organisations, qu'on maîtrise nos interdépendances, qu'on essaie vraiment, en fait, de faire front. Et j'invite les entreprises françaises à faire front ensemble, chasser en meute. On veut chasser en meute au niveau européen, et je le comprends tout à fait, mais les entreprises françaises aussi doivent chasser en meute, entre elles, se soutenir et avancer malgré peut-être la politique qui peut ne pas être dans le bon sens. L'objectif, c'est vraiment de se dire, nous, on est sur le terrain, dirigeants d'entreprise, on pilote des organisations et on représente bien évidemment la France.
Chasser en meute, j'ai souvent entendu ça dans le modèle d'exportation allemand. C'est ce qui faisait la force de vos ETI dans les Länder, c'est qu'ils ont toujours chassé en meute, comme nous, on ne savait pas faire, Friedrich, peut-être.
Je veux juste le pessimisme que Niklas a mentionné.
Le pessimisme.
Non, parce que factuel, peut-être.
Non, mais peut-être tu as raison avec l'analyse, mais je crois que ce pessimisme, ça aide pas trop, parce que ce qu'on voit aussi avec toute cette pression qu'on a eue les derniers mois en Europe, l'Europe est capable d'agir. Il faut beaucoup de pression, malheureusement, mais l'Europe est capable d'agir. Et la réforme de retraite en France, oui, c'est une question très, très compliquée. Mais ce qu'on a vu avec la guerre en Ukraine, ça a pris un peu de temps, mais l'Europe était capable d'agir ensemble. Et aussi, comme réaction au président Trump, l'Europe a réussi d'agir ensemble. Et je pense ce qui est très important, de garder un peu l'esprit qu'on peut changer des choses. Et je pense que nous avons un grand problème démocratique si on dit toujours tout est perdu. Et ça, je pense qu'il faut avoir cet esprit de créer et cet esprit d'avenir. Et ce que j'ai entendu le panel de Madoka, et ça, je trouvais intéressant. Il y avait beaucoup de gens de la région d'Asie et on a ressenti beaucoup plus d'optimisme et beaucoup plus d'envie d'avenir qu'on a parfois ici en Europe. Et je pense qu'il faut changer ça.
C'est hyper intéressant ce que vous nous dites. Vous avez ressenti ça aussi, Madoka, lors de votre panel. D'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Mais quand même, pour commencer à teaser un petit peu, cet optimisme qui vient de la région d'Asie, quelque part, ben voilà, ça reflète aussi ce qu'ont compris les Américains peut-être bien avant nous en Europe, à savoir le pivot vers l'Indo-Pacifique. Barack Obama avait très bien compris ça. C'est là-bas que ça se passe maintenant, plus qu'en Europe.
Oui, c'est vrai que donc il y a une grande partie de mes panélistes venaient de l'Asie du Sud-Est et je pense que c'est pour ça que avant leurs défis sont plus sérieux que ce qu'on constate en Europe, mais ils ont quand même confiance que enfin ils sont en pleine croissance, il y aura un meilleur avenir si on fait l'effort et c'est peut-être quelque chose qui manque en Europe.
D'accord. Un peu plus d'effort et un peu plus de confiance. En tout cas, si on veut espérer un peu plus de réindustrialisation, moi, j'ai quelque part envie de dire merci au Japon. Parce qu'on a eu, il y a quelques semaines, peut-être une annonce qui était une des plus spectaculaires de ces 20 dernières années d'investissement. C'était lors du sommet Choose France à Versailles. Vous y étiez, hein, sur place, Madoka?
J'étais pas à Choose France, mais j'étais à la conférence de presse de M. Sursan et président Macron.
Voilà.
Et après, j'ai eu l'occasion aussi d'interviewer M. Sursan.
Ouais, alors expliquez-nous, parce que c'était le président de SoftBank, oui, qui a investi pas loin de 80 milliards d'euros, oui, dans des data centers en France.
Oui, oui. Alors donc on a demandé pourquoi en France. Il a répondu qu'il a été convaincu par le président que il y a une abondance d'électricité, ce qui est vraiment important, essentiel pour le data center. Il avait déjà annoncé un grand plan d'investissement aux États-Unis et maintenant il voulait investir aussi en Europe. Et c'est ainsi que en fait maintenant la France exporte l'électricité aux pays hauteurs. Mais avec des data centers, et on peut exporter data vers les États-Unis pendant la nuit, quand il fait nuit en Europe.
C'est ça, c'est-à-dire qu'un des grands atouts de la France, pour le coup, c'est l'atout énergétique.
Oui, exactement.
D'accord.
Oui.
Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez aussi, vous qui êtes dans le renseignement économique, justement, la solution de décarbonation ou de l'électricité abondante? Enfin, je sais que ça a été un facteur décisif pour que SoftBank dit « Ok, je mets 75 milliards hein. ». C'est-à-dire qu'on peut, raccorder très vite n'importe quelle centrale pour des projets haut débit et voilà, et on ne perd pas trop de temps.
Ce que je comprends par là, c'est que il est extrêmement important pour la France de protéger ce qui est stratégique et ce qui séduit l'international, notre patrimoine. Finalement, il faut le protéger. Le renseignement permet vraiment en fait de protéger. Et aujourd'hui, on doit se préserver ce qui attire justement ce genre de contrat et d'investissement.
Dernier point peut-être aussi sur les espoirs, voilà, sur les raisons d'espérer une réindustrialisation. Est-ce que ce débat, il est cette question aujourd'hui, comment est-ce qu'on la vit en Allemagne? Parce que je sais qu'il y a une crise existentielle que traversent de grands noms industriels allemands qui font la grande force de l'Allemagne et de l'Europe. Aujourd'hui, est-ce qu'on a le blues ou est-ce que on a encore la foi?
La crise est une réalité, la crise industrielle de notre secteur clé, l'auto. Ça explique peut-être mon point de vue qui a été qualifié comme pessimiste. C'est super.
Mais au contraire, vous nous faites réagir, Nicolas. Vous êtes là pour ça. Là.
Alors, il y a un slogan d'une chaîne télé qui est très connue. La France a tout pour réussir. Non, je veux dire l'Europe.
Ah, mais c'est un de nos programmes phares sur BFM,
l'Europe,
de Jérôme Tichy.
L'Europe a tout pour réussir, y compris l'Allemagne. Et c'est vrai, il y a des atouts partout et j'ai beaucoup d'espoir quand même. C'est quoi? Alors c'est quoi les chiffres de croissance? Maintenant on parle de 0,5%. Ça ne suffit pas pour financer notre système, pour financer nos retraites, etc. Donc il faut faire plus. Il ne faut pas se reposer. Et sur cet investissement de SoftBank avec Schneider, c'est génial. C'est un bon exemple qu'il y a encore l'espoir. C'est justifié. Après, combien de jobs, combien d'emplois est créé? Pas assez. Et c'est dommage qu'il n'y a pas encore d'autres investissements qui créent beaucoup, beaucoup plus de jobs.
Allez, je lance un défi à tous mes experts sans frontières. Dans la deuxième partie de l'émission, on va essayer de donner quelques arguments pour rendre Nicolas un peu plus optimiste sur la réindustrialisation. On marque une courte pause. On se retrouve juste après dans les experts sans frontières, spécial délocalisation depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. À tout de suite.
BFM Business présente Les experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bienvenue si vous nous retrouvez dans les Experts sans frontières. Nous sommes en direct depuis notre studio BFM Business délocalisé aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Autour de moi, Madoka Kitamatsu, chef du bureau du Nikkei à Paris et à Genève. Friedrich Hoffmann, correspondante du Handelsblatt en France. Niklas Zabogi, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung en France. Et puis Maëline Camus, présidente de Prism Intelligence et ex-agent de la DGSE, spécialiste du renseignement économique. On parlait des raisons d'espérer pour réindustrialiser en France et aussi de qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Europe arrive à naviguer dans ce monde de plus en plus instable. Comment l'Europe peut trouver sa boussole? Moi, j'ai toujours grandi, Niklas, avec au-dessus de moi l'ombre du couple franco-allemand. Aujourd'hui, je le sens plus, je le vois plus. Est-ce que ça doit repasser par là? Et est-ce qu'on ne le voit plus, on ne le sent plus, selon vous?
Non, ce couple existe toujours. Hein. C'est toujours un mariage, mais c'est un mariage un peu vieilli. Donc maintenant, on a une crise hein, dans ce mariage, dans ce couple. Et malheureusement, déjà pendant des années, tout le monde a pensé qu'avec Merz, ça va aller. Hein. Et au début, il y avait d'espoir. Maintenant, c'est devenu compliqué, notamment pour des raisons que les coopérations industrielles dans la défense ne fonctionnent pas comme prévu.
C'est ça. Et donc là, ce qu'on a en tête, c'est forcément le SCAF. C'est quoi votre lecture, vous? Qu'est-ce qui a échoué dans le SCAF? Parce que je sais que si on regarde au niveau des motoristes, par exemple, Safran, lui, il a très bien réussi à s'entendre avec ses homologues allemands. Hein. Après, au niveau d'Airbus, ça devenait un peu plus compliqué. Et de Dassault, je crois que ça devenait un peu plus compliqué.
Tout à fait. Alors, premier point, projet, méga projet politique, politisé, trop lent. Alors, déjà, 2017, on a discuté ce projet. Maintenant, avec la crise en Ukraine, beaucoup de choses ont changé. Après, très politisé aussi. Il y a de bons exemples dans la coopération industrielle s'il n'y a pas de politique dedans. Mais là, c'est devenu très politisé. Et troisième point, bien sûr, c'est aussi la complexité d'avoir une coopération entre une entreprise familiale, Dassault, et ce tanker, ce géant Airbus. Et en plus, peut-être aussi l'Allemagne qui a maintenant trop d'argent et pense parfois qu'elle peut faire tout soi-même.
Maëline Camus, cet exemple du SCAF et de la coopération industrielle franco-allemande, elle est assez intéressante quand on le regarde avec le prisme du renseignement économique, parce que là on est sur un cas d'école assez particulier, où d'un côté vous nous en parliez tout à l'heure de chasser en meute, de l'union fait la force, où l'Europe doit résister dans ce monde des empires, etc. Donc au niveau industriel, l'union fait la force, et en même temps quand on regarde l'exemple du SCAF et de la coopération industrielle, on est sur un exemple où si finalement chacun essaye de garder son précaré, essaye de protéger sa brique technologique. Si on continue à raisonner comme ça, l'union ne fera pas la force.
Ben malheureusement, comme il a été dit, c'est très politique, il y a beaucoup de lourdeur et c'est ça, maintenant il faut prendre de la hauteur de vue, du recul pour essayer de voir comment des alliances peuvent naître. Il y a des égos à mettre de côté, il y a essayer de trouver un chemin dans cette difficulté, dans cette crise. On est dans une crise de mariage et c'est aussi à nous, puisqu'on est aussi une partie, à trouver un point moyen pour essayer de faire en sorte que le mariage dure malgré la crise.
Oui, et en même temps, alors je crois que Friedrich, vous m'aviez déjà repris à l'antenne, vous aimez pas qu'on parle de couple franco-allemand.
Je sens que vous... C'est très émotionnel.
Vous avez peut-être raison. Un jour, mais arrêtez. Je crois qu'il y a que les Français qui parlent de couple franco-allemand.
Ouais, en Allemagne, c'est plutôt le moteur franco-allemand.
Le moteur, ok. Ouais, alors, ouais, restons sur le moteur. En même temps, on voit bien que là, sur les moteurs, même sur les moteurs, on ne veut pas bosser ensemble.
Ouais, c'est ça. Donc, même si le moteur, le SCAF, ça marchait assez bien. Mais
oui, sur le SCAF, ça marchait bien. Non, mais après, plus sérieusement, est-ce que il y a des raisons d'espérer, selon vous, d'une coopération industrielle renforcée entre la France et l'Allemagne qui redevienne ce moteur qu'elle était ces dernières décennies en Europe?
Alors, je crois qu'il faut vraiment mieux intégrer ces projets. Ce qu'on est, on a un peu vu que nous étions pris en otage par un conflit industriel. Et toute l'Europe était prise en otage par ce conflit industriel. Et malheureusement, il n'y avait pas assez de leadership des côtés de chanceliers allemands et de présidents français de résoudre cette situation. Et je pense, on a, il y avait des années où il y avait des conflits. 2021, c'était juste avant l'échec. Alors, ce n'est pas que l'échec est venu il y a quelques mois. Non, c'était un problème depuis des années et on n'a pas vraiment réussi de trouver des compromis ou peut-être dire, OK, on va arrêter ce projet. Et ce qu'on voit, on discute souvent de Airbus et l'exemple d'Airbus et peut-être faire un Airbus de semi-conducteurs, un Airbus de l'intelligence artificielle. Comment on peut trouver des formes industrielles bien intégrées pour vraiment travailler ensemble? Parce que je crois juste avec la volonté politique, ça ne marche pas. Il faut convaincre les industriels de vraiment s'intégrer et vraiment avoir un objectif ensemble. C'est et ça. Juste un objectif politique, ça aide pas. C'est
je
pas
sais
assez.
À l'Elysée, il y a un concept qui était très en vogue cette année, qui est celui de best athlète. C'est-à-dire qu'on prend en Europe, on regarde sur les fabrications de tel boulon qui est le meilleur en Europe, et c'est lui qui va être leader pour fabriquer les boulons. J'invente, mais l'idée du best athlète qui marche dans le sport, dans les équipes sportives, l'appliquer à nos industriels en Europe.
Je crois que ça serait mieux de jouer en équipe. Il peut être un meilleur athlète, oui, c'est ou le best athlète, c'est pas la question, mais il faut jouer en équipe. Et aussi, peut-être, la France doit aussi apprendre un peu de jouer en équipe avec les autres et avec le SCAF. Malheureusement, peut-être c'était l'exemple de cette entreprise.
Ouais, peut-être mais... que Dassault a peut-être été un peu trop solo, d'accord. On a compris. Et vous, Madoka, comment est-ce que vous regardez ça, la difficulté avec vos lunettes de chef du bureau de Nikkei, peut-être le plus grand quotidien économique au monde, japonais. Comment est-ce que vous regardez cette difficulté européenne à nouer des alliances industrielles?
Alors, c'est vrai que c'est vraiment cette difficulté d'être à côté de l'un de l'autre et vous ne pouvez pas vous séparer parce qu'on ne peut pas bouger des pays. Mais il faut aussi ne pas oublier que c'est un élément très positif qu'il y a un partenaire si puissant juste à côté et qu'il y a des moyens de coopération. Parce que c'est pas quelque chose qu'on a forcément en Asie. On est un peu plus divers. Enfin, oui, on n'a pas une union asiatique, ça va jamais arriver. Mais c'est pas le cas en Europe. C'est pour ça qu'on peut parler de troisième pôle mondial après les États-Unis, la Chine et puis l'Europe. Mais si collectivement, vous n'allez pas faire des projets ensemble, ce ne serait pas un troisième pôle, ce serait juste des petits pays européens qui ne sont pas très très bien coordonnés.
C'est intéressant la question que vous soulevez parce que vous dites qu'il n'y a pas d'union asiatique comme on essaye de faire en Europe et en même temps, est-ce que ce n'est pas un mouvement qui commence un peu à apparaître autour de Xi Jinping, autour de la Chine?
Alors ça, est-ce qu'on peut appeler ça comme une union? Parce que je pense que la Chine est tellement puissante comparée aux autres pays. Et je pense que sera beaucoup moins un système égalitaire comme l'Union européenne. Il y a aussi, le niveau de développement est très différent selon le pays en Asie. Ouais. Et on ne partage pas les mêmes langues, on ne partage pas la même culture. Donc je pense que nous, en Asie, on cherche plutôt à multiplier des voies de coopération bilatérale ou multilatérale. Et ce sera comme ça qu'on ne va pas être unis en une Asie.
Il y a un autre sujet pour rester sur les relations franco-allemandes qui est pas un petit sujet. On voit, Niklas, que la dissuasion la doctrine de dissuasion nucléaire est quelque chose. Le président de la République s'est emparé du sujet. C'est assez rare. Hein. La dernière fois qu'il en avait parlé, c'était en 2020. Là, il en a parlé il y a quelques mois à l'île Longue, base des sous-marins lanceurs d'engins. L'idée étant que le parapluie sécuritaire américain est en train de se refermer doucement en Europe sous l'ère Trump. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la France, seule puissance nucléaire dans l'Union européenne, peut quelque part pallier l'absence des Américains? Il lance un peu cette perche, Emmanuel Macron, en disant on peut réfléchir ensemble à une dissuasion avancée ou élargie. Comment est perçue cette question en Allemagne?
C'est perçu grosso modo comme positif que la France est prête à discuter. Alors on est bien sûr loin d'un vrai accord sur cette question-là. Mais bien sûr, c'est quelque chose de positif. Et c'est aussi là, c'est un bon exemple qui montre dans quel état l'Europe se trouve, et notamment l'Allemagne au cœur de l'Europe, sans dissuasion nucléaire elle-même, parce qu'il y a non seulement cette menace russe, mais aussi les Américains qui se reculent. Donc il y a ces deux choses ensemble. Et ça explique aussi, c'est aussi quelque chose que je dis, essaye aussi d'expliquer aux Français toujours, faire un peu de la pédagogie. L'Allemagne est vraiment dans un état hyper, hyper menacé, se sent menacée. C'est pour ça qu'on lance ces milliards. Et c'est aussi pour ça qu'on veut maintenant prioriser aussi des projets industriels dans la défense plutôt court-termiste, parce qu'il faut des solutions vraiment d'ici 2029.
Et ce que, juste pour ajouter, ce que j'entends ici souvent des PDG, mais aussi avec des hommes politiques que je discute, la peur que l'Allemagne fait maintenant son propre truc et pas plus faire les choses ensemble. Niklas a mentionné les sommes énormes qui sont investies dans la défense, mais aussi dans l'infrastructure en Allemagne. Et là, on voit par exemple avec la constellation satellite allemande qui va être un peu en concurrence de le projet européen IRIS². Alors,
je crois qu'il y a un budget monstre de 400 milliards, je crois, sur la défense qui a été.
Alors, et je pense que ça, c'est maintenant aussi à un moment crucial, aussi montrer du côté allemand qu'on veut aussi travailler ensemble et pas dire on a investi maintenant beaucoup d'argent, on va. Et je pense que ça, c'est vraiment crucial.
Dernier point sur l'Allemagne. Je voulais en profiter, comme on est aussi avec Maïline qui est dans le renseignement économique. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez des éclairages de nous apporter ou pas là-dessus, ou si ça fait écho à ce que vous pouvez voir en France. Mais je sais, on en avait déjà parlé un peu ensemble, l'Allemagne, qui est plus exposée que la France à la guerre hybride que mènent les Russes en Europe. Et notamment, j'ai cru comprendre qu'ils avaient des opérations, notamment de déstabilisation, mais opérationnelles, hein, pas que cyber, qui visaient beaucoup d'industriels en Allemagne. Est-ce que cette nouvelle menace, cette nouvelle guerre hybride, notamment que mènent les Russes en Europe, c'est quelque chose dont le tissu industriel français doit prendre en compte, se méfier, s'armer dès aujourd'hui? Et est-ce qu'ils le font déjà?
C'est extrêmement important. L'Allemagne, ce qu'elle fait, c'est qu'elle constate des menaces qui existent et elle en parle et elle prend des décisions sur ces menaces. Il est grand temps aujourd'hui que la France fasse de même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les menaces, elles s'arrêtent pas aux frontières. Hein, c'est pas que l'Allemagne qui est visée, c'est l'ensemble de l'économie et les entreprises françaises font aussi face à cette guerre économique, à des menaces hybrides, complexes, qu'importe d'où elles viennent, en tout cas, elles menacent aussi les organisations françaises et il est temps aujourd'hui, un, de s'en rendre compte, hein, d'ouvrir les écoutilles et enfin de constater qu'effectivement on est soumis à cette menace et qu'on est dans un contexte de guerre économique et deux, de prendre des mesures pour se protéger, pour se sensibiliser, pour se former et finalement faire comme les Allemands, mais agir.
Ouais. C'est ça, oui, parce que je sais qu'en Allemagne, il y a beaucoup. Le patron de Rheinmetall, par exemple, était visé à un moment. Sa personne a été visée physiquement par les services russes. Je sais qu'il y a beaucoup de sections de câbles et d'entreprises d'infrastructures énergétiques qu'on renforce en Allemagne. Voilà, c'est ce type de mesures qu'il faudrait prendre chez nous aussi.
Alors, il y a aussi, quand ça concerne une menace étatique, les services de renseignement étatiques se positionnent dessus et font preuve de discrétion par rapport à ce qu'ils constatent.
Oui,
donc, c'est pas étonnant qu'on ne soit pas au courant de tout. Moi, je parle des entreprises françaises, donc des organisations privées qui, elles, font aussi face et elles ont aussi le droit de savoir à quel type de menaces elles font face. C'est extrêmement important pour pouvoir se protéger. De quoi nous, on se protège aujourd'hui? Donc, il faut faire la différence entre une menace étatique et contre un État et une menace contre des organisations privées.
En tout cas, faire le diagnostic d'un monde de plus en plus brutal, de plus en plus instable. Hein, c'est ce qui se passe ici pendant 3 jours aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence où nous avons notre plateau délocalisé et où j'ai le plaisir d'accueillir tous mes experts sans frontières. Vous avez aussi modéré et animé une table ronde ici, Madoka Kitamatsu, qui était passionnante aussi autour des enjeux démographiques et de la croissance ou de l'hypercroissance et de l'hyperfragilité des pays asiatiques, c'est ça?
Oui, c'est ça. Alors, j'avais la ministre des Affaires féminines du Cambodge qui m'a expliqué que, en fait, il y a.
Excuse-moi, c'est l'intitulé, il y a une ministre des Affaires.
Des féminines.
Des Affaires féminines au Cambodge,
oui,
d'accord.
Au Cambodge. Elle m'a expliqué qu'en fait, il y a de nouveaux critiques envers les femmes et les femmes qui. qui aspirent des voies professionnelles parce que la natalité est en train de baisser dans son pays. Et donc on dit que donc ce sont des femmes qui sont responsables parce que elles préfèrent choisir autre chose qu'avoir des enfants dans la vie. Et je pense que on a le problème est commun entre l'Europe et l'Asie. On constate qu'il y a moins d'enfants, mais je pense que l'approche est différente. En Asie, on a un peu une tendance, c'est pareil au Japon, de renvoyer la responsabilité vers les femmes, qui est pas du tout, ça ne résout pas du tout le problème. Et je trouve qu'en France, par contre, on n'en parle pas assez.
C'est vous qui me faites découvrir en fait ce courant en fait anti-carriériste chez les femmes au Cambodge qui serait responsable d'une démographie qui stagne.
Oui, moi je savais pas non plus, mais ça se comprend. Je pense qu'au Japon aussi, peut-être moins maintenant, mais il y a quelques ans, peut-être 10 ans, 15 ans, on entendait le même type de discours.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que si on élargit un peu la focale, c'est vrai qu'on a peut-être en Europe tendance à se dire que la croissance démographique, elle se fait en Asie, un peu partout en Asie. Mmh. En fait, non, il y a quand même un mouvement qui a commencé à stagner, voire à régresser aussi en Asie. Le monde entier fait moins de bébés l'Asie n'échappe pas à cette règle.
Oui, je pense que c'est une tendance naturelle avec la croissance économique. Et le niveau de vie qui est meilleur, on fait moins d'enfants, donc ça, on ne peut pas vraiment éviter cette conséquence. Donc la question, c'est comment rassurer les jeunes générations que c'est pas une catastrophe de faire des enfants, avoir une famille. Donc l'option est là, personne veut empêcher les jeunes, personne va forcer les jeunes d'avoir des enfants.
Ouais. Et ce défi démographique, comment est-ce qu'il est abordé au Japon?
Alors au Japon, le Japon, je pense que c'est vraiment un cas qui devrait être étudié parce que j'ai l'impression que on a réagi vraiment trop tard. C'est-à-dire que la baisse de naissance a commencé, je pense qu'il y a 20 ans, 30 ans, et du coup, donc on a vraiment le nombre absolu de femmes qui est là au Japon, qui ont l'âge de pouvoir avoir des enfants. On n'en a pas assez pour pouvoir arrêter la baisse de population.
Donc on a une Asie, on voit qui stagne. Alors il y a des pays quand même. Il y avait un rapport de la Banque mondiale passionnant publié cette année qui nous montre, je crois, que à l'horizon 2040 ou 2050, toute la croissance démographique mondiale sera portée par uniquement 7 pays. 7 pays dans le monde, dont l'Indonésie. Et tout l'enjeu, de ce que j'ai compris, tout l'enjeu pour ces pays était de faire tapis et justement au niveau budgétaire d'investir dans l'éducation, parce que soit c'est ça et c'est la rampe de lancement et ils décollent, soit c'est la mort. Donc c'est vraiment tout l'enjeu pour ces pays, Indonésie en tête. Vu d'Europe, Maïline Camus, ce défi démographique, il se voit aussi dans le tissu démographique, dans le tissu des entreprises. C'est-à-dire, quand on parle d'une Europe vieillissante, est-ce que vous le voyez à travers les entreprises que vous accompagnez?
Oui, et je dirais même une France vieillissante. Et aujourd'hui, ça pose vraiment un problème, notamment une vulnérabilité vers les entreprises familiales. Aujourd'hui, on a environ 83% des entreprises françaises qui sont familiales. Ça représente en moyenne 50 à 60% du PIB. Et ces entreprises familiales, elles doivent absolument anticiper cette transmission. La transmission des sociétés. Parce que sinon, on ouvre les portes à des vulnérabilités de captation, de difficultés. Je vous raconte l'histoire d'un dirigeant qui s'est retrouvé, son papa est malheureusement décédé, et la transmission n'avait pas été préparée sur l'entreprise. Aujourd'hui, la société est en difficulté. Elle est en difficulté parce qu'elle a des difficultés à prendre des décisions, elle a des difficultés parce que la transmission n'a pas été faite correctement, et on se retrouve avec une entreprise qui patachonne et qui ouvre en fait la porte à des vulnérabilités décisionnelles, économiques et même d'emploi. qui sont des sujets en France. Donc la préparation à la transmission des entreprises familiales est extrêmement importante, sans quoi on va s'exposer à des forts enjeux au sein des organisations françaises.
C'est un vrai sujet aussi en Allemagne, hein, Frédéric Hoffmann, d'autant que vous, c'est peut-être le pays des entreprises familiales, hein, l'Allemagne.
Oui, et c'est plus que ça, c'est plutôt un problème macroéconomique, hein, parlant de retraite. Alors qui va payer pour les retraites? Nous allons avoir cette discussion en France encore une fois, à quel âge on va à la retraite, qui doit financer la retraite. Et ça, c'est en Allemagne, on a déjà clarifié la question à quel âge on va à la retraite. Maintenant, on a changé la capitalisation. Il y avait un nouvel élément qui était ajouté. Mais bien sûr,
il y a un débat générationnel ou est-ce que la jeune génération est...
Alors oui, bien sûr, il y avait un grand débat dans la CDU, les chrétiens démocrates les jeunes qui ont fait la rébellion contre le reste de la partie concernant le plan de la retraite de plus anciens. Alors oui, bien sûr, même si on voit dans le poids politique, les jeunes ont moins de poids que les vieux. Et ça, je pense, c'est pas que l'Allemagne. Ici, en France, c'est la même chose. Les jeunes jouent moins un rôle parce qu'ils sont un groupe d'électeurs plus marginalisés que les retraités qui vont aux urnes. Et je pense que ça, c'est une grande question qu'on va avoir les prochains mois ici en France aussi, avec les élections qui viennent.
Avec les élections qui viennent. Il nous reste quelques minutes. On va peut-être terminer aussi là-dessus, sur ces élections qui viennent. Vous, Niklas, à la Frankfurter Allgemeine Zeitung, comment est-ce que vous abordez cette année électorale qui arrive en France? Qu'est-ce que vous guettez? Est-ce que c'est la possibilité d'un parti extrême qui arrive au pouvoir et vous décortiquez déjà son programme économique? Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous intéressent déjà ou que vous surveillez?
Alors d'abord, il y a des élections en Allemagne, hein, dans les Länder, notamment dans l'Allemagne de l'Est, et ça sera décisif aussi pour l'Europe, parce que pour la première fois, l'AfD est vraiment autour de 40-45%, donc possiblement déjà au pouvoir dans un Land. Pas national, nouveau national, mais quand même, ça serait décisif.
J'avais pas en tête. 40 à 45%.
En Saxe-Anhalt, Saxonie, en Allemagne de l'Est, en septembre, c'est très décisif. Et les Mecklenburg-Vorpommern, là, ils sont pas à 45%, mais quand même. Wow. Ça, c'est décisif. Et ça, c'est aussi peut-être une vraie menace pour la coalition à Berlin, parce que Merz, maintenant, est pas vraiment populaire. Il a pas réussi à convaincre son électorat, son parti. Et donc, en combinaison avec la crise industrielle, qui est une réalité, qui explique peut-être mon pessimisme, ça se traduit dans une complexité en Allemagne. Après, oui, bien sûr, la France maintenant est instable ou peut-être pas vraiment gouvernée parce que le gouvernement de l'économie n'a pas de majorité, ça c'est connu. Donc, franchement, honnêtement, ce seront des mois très décisifs et aussi très difficiles pour l'Europe.
Et vous, Madoka Kitamatsu, comment est-ce que vous allez... couvrir et surveiller cette élection présidentielle, au-delà des taux obligataires et de la dette française, hein, que vous scrutez au quotidien au Nikkei, bien sûr.
Alors, donc, vraiment, la grande question que les entreprises japonaises se posent par rapport à l'élection présidentielle, c'est: est-ce que la France va continuer d'être un pays qui vaut d'investissement? Est-ce qu'il va continuer d'être aussi accueillant au capital étranger? Parce qu'on peut beau parler de réindustrialisation, mais ouais, si on est trop protectionniste, on peut pas réindustrialiser l'Europe sans capital qui vient d'ailleurs. Et je pense que vraiment chaque candidat serait bien qu'ils envoient des messages clairs aux entreprises étrangères dans quelle manière il ou elle va aborder ce défi.
Et en même temps, au-delà de la France, ça fait partie, j'allais dire, est-ce que ce n'est pas le symptôme d'une époque où tout le monde se replie un peu sur soi?
Oui, je pense qu'il faut bien protéger l'industrie nationale ou régionale, et il faut aussi avoir d'investissements étrangers. C'est à chaque pays de trouver le bon équilibre, il ne faut pas pencher aux extrêmes.
Maëline Camus, quand on est dans le renseignement économique, est-ce que ces périodes de quelques mois avant une présidentielle en France, sachant qu'il y a la guerre à l'est de l'Europe, on sait qu'il y a des toutes les élections en Europe sont percutées par des tentatives de déstabilisation venant de la Russie. Ça, c'est un sujet politique hermétique aux questions économiques, ou est-ce que c'est quelque chose quand même où tout est entremêlé et ça peut geler des décisions d'investissement ou perturber des acteurs économiques, voire des secteurs entiers? C'est des choses que vous surveillez, que vous guettez?
Tout à fait, hein. On parle de guerre hybride, on parle de guerre complexe, tout ça, la géopolitique, la politique, les présidentielles, ça va venir forcément impacter les entreprises, les décisions des dirigeants d'entreprises, aussi aller vers l'étranger, aussi investir, ouvrir le capital. Tous ces sujets, c'est en suspens, et aujourd'hui c'est un peu ceinture et bretelles, et tant mieux, parce que d'un côté, la menace est là, et tant qu'on n'a pas défini quelles sont les menaces, qu'on ne se protège pas, je comprends aussi que les dirigeants d'entreprise aujourd'hui soient un petit peu réticents aussi par rapport à l'avenir de notre pays aussi.
Oui, réticents et aussi déboussolés, puisque c'est le thème qui nous réunit aujourd'hui, Frédéric. Quand on dit déboussolé, on est quand même en France, on sort d'une période où, encore une fois, j'ai plus la date exacte, mais la dissolution de l'Assemblée nationale, derrière, ça a été 18 mois d'instabilité politique, pas de budget. Ça renvoie une image catastrophique aux investisseurs étrangers.
Oui, je pense qu'on va changer le mode en septembre. Quand on va vraiment entrer dans la campagne, je pense qu'il y aura moins de décisions à l'Assemblée. Bien sûr, la France a besoin d'un budget, mais ça devient encore plus compliqué avec les élections qui viennent. Alors maintenant, je pense que le discours politique devient encore un peu plus dur que c'est déjà. Et vu, par exemple, de l'Allemagne, c'est bien sûr, on est un peu prudent ce que se passe ici, bien sûr.
Et quand on dit qu'on est en manque de repères, je ne sais pas, alors évidemment, on ne va pas faire de la politique fiction, voilà, on n'a pas de boule de cristal, mais moi, personnellement, je suis assez, pas déstabilisé, mais j'ai du mal à lire ce qui peut se passer en France, parce qu'il y a ce paradoxe où, d'un côté, on voit comme en Grande-Bretagne, comme il y avait, par exemple, en Hongrie aussi, monter des populismes très forts un peu partout, et en même temps, on voit des sondages qui nous parlent d'une envie d'Europe. 57% des Britanniques qui regrettent le Brexit, qui veulent plus d'alliances avec l'Europe. Une énorme majorité d'Européens qui estiment que Trump n'est plus un allié et qui veulent renforcer les coopérations européennes. Donc il y a des signaux un peu contradictoires entre des vagues populistes et des besoins et des envies de coopération. Personnellement, j'ai du mal à m'y retrouver.
Oui, ça je comprends très bien, et je pense que c'est aussi un peu la démocratie, ou peut-être c'est plus ambivalent les sentiments qu'on a quand on voit ce monde maintenant. Mais ce que je reprends de ces jours à Aix, ici les rencontres, que c'est peut-être aussi une fenêtre de l'opportunité qu'on a maintenant d'agir. Et il faut agir et pas juste attendre et voir ce que se passe dans le monde. C'est vraiment maintenant à agir. Et aussi, oui, il y a des élections en Allemagne, à Pologne aussi, en France. Mais quand même, ça ne doit pas arrêter tout. Et je pense que ça c'est très important aussi, de montrer qu'on est capable d'agir et on ne réagisse pas que.
Oui, c'est ça, une fenêtre d'opportunité. Et vous, Nicolas, comment est-ce que vous aussi, est-ce que vous avez, vous y voyez peut-être plus clair que moi entre ces signaux contradictoires de sondages qui montrent une envie d'Europe et en même temps des sondages qui montrent des montées populistes extrêmement fortes?
Je pense juste qu'une partie de l'électorat est toujours juste déçu, frustré, mais peut être convaincu par une politique qui attaque vraiment les problèmes qui sont là, les problèmes structurels qui peuvent être attaqués, et avec des réformes, avec la croissance, ça va changer. On peut aussi le sentiment général en Europe, en Allemagne, mais aussi en France. Là, je veux être convaincu, oui, parce que vous avez donné les exemples des pays comme notamment l'Hongrie.
Eh bien, vous savez quoi, on aura terminé avec vous sur une note positive, Nicolas.
Oh. Vous m'avez convaincu.
Bon, en tout cas, un grand merci à tous nos experts sans frontières qui étaient là avec nous. Madoka Kitamatsu, chef du bureau du Nikkei à Paris et à Genève. Frédéric Hoffmann, correspondante du Handelsblatt en France. Nicolas Zabogi, correspondant en France de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et puis Maïline Camus, présidente de Prism Intelligence. Les Experts sans frontières, c'est terminé depuis ces fabuleuses rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Mais restez avec nous parce que tout de suite, on va continuer cette page spéciale et on va essayer d'avoir quelques points de repère, de trouver quelques boussoles avec des invités autour de moi jusqu'à 19h30, dont la présidente de l'Assemblée nationale. On marque une courte pause. À tout de suite sur BFM Business.
BFM Business présente Les Experts sans frontières. Mathieu Jolivet.
Bonjour et bienvenue, très heureux de vous retrouver dans cette édition spéciale de BFM Business depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence avec notre magnifique plateau délocalisé. Vous pouvez peut-être entendre d'ailleurs autour de moi les grillons et les criquets, voilà, typique d'Aix-en-Provence. Ça fait 21 ans que cette édition existe. Il n'y a peut-être jamais eu autant de monde. Autant de monde, notamment, c'est très international, très géopolitique. Avec cette thématique, comment est-ce qu'on peut naviguer dans un monde sans repères? Nous, pendant cette demi-heure, on veut essayer de trouver quelques boussoles pour savoir comment naviguer dans cette purée de pois, dans ce monde brutal, dans ce monde instable. La première boussole, peut-être une des plus importantes, surtout en cette période électorale, c'est la boussole politique. Je reçois la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci de votre invitation.
Je dis une boussole politique parce que là, alors c'est une question qui peut paraître peut-être un peu large, mais ô combien cruciale. On sait qu'il y a une crise de confiance qui n'est pas propre à la France, qui est à la base une crise géopolitique. C'est une crise qui est liée à l'avènement des empires, aujourd'hui, d'un monde drivé par Donald Trump, par Xi Jinping, par Vladimir Poutine. Aujourd'hui, quand on est présidente de l'Assemblée nationale, comment on fait pour naviguer dans cette instabilité géopolitique et surtout pour essayer de maintenir ce lien de confiance avec les citoyens? Parce que cette confiance, on ne va pas se mentir, elle a aussi été cassée. Et ça, ce n'est pas propre à vous, c'est un symptôme de notre époque.
Alors effectivement, la confiance, elle s'érode et ça fait des dizaines d'années et elle s'érode en France, mais elle s'érode partout dans le monde. Il y a une vraie crise de confiance entre les citoyens et les politiques. Alors moi, je crois que quand ça tangue très fort, il faut être solide sur ses appuis. Et les appuis dans notre pays, c'est d'abord le régime, la démocratie, c'est l'état de droit qui a un certain nombre de règles, l'indépendance de la justice, la séparation des pouvoirs, le rôle de l'Assemblée nationale en tant que législateur et contrôle de l'action du gouvernement. Et puis, ce sont nos valeurs. Quelles sont les valeurs qui guident notre action et sur lesquelles on ne transige pas, même quand il y a de la tempête. Et donc, les valeurs, la démocratie, l'état de droit, quand ça tangue, il ne faut pas les remettre en cause parce qu'on voit que certains veulent les remettre en cause pour justement résoudre certaines difficultés. Je crois que c'est une erreur majeure. Il faut au contraire rester très solide sur ce que nous sommes, qui nous sommes, pour pouvoir affronter justement ce monde pétri de crises qui, pour la plupart du temps, sont exogènes à notre pays.
Et comment faire entendre ou faire résonner fortement ces arguments dans un monde où on voit que les recettes populistes, et notamment du trumpiste, marchent très très bien et qui surfent notamment sur, bah, vous connaissez ça par cœur, mais sur les élites déconnectées du peuple, etc. Ça marche bien.
Alors je crois qu'il faut déjà être exemplaire. Les élites déconnectées du peuple, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. On vit chez nous, on n'est pas dans les palais de la République, on n'a pas fait toujours ça dans notre vie. Moi j'ai commencé la politique, j'avais 47 ans et donc je suis parfaitement connectée avec les gens. Je suis comme tout le monde, je fais partie du peuple. Donc il faut déjà déconstruire cette idée de se dire qu'il y a des élites d'un côté qui seraient complètement déconnectées de la réalité. Ça n'est pas exact, ça n'est pas notre réalité. Quand je vais au supermarché faire mes courses, je suis avec les gens, je suis comme tout le monde. Et pour moi, ça n'est pas une exception.
Parce que l'Assemblée, l'institution que vous représentez, c'est vrai, a un peu traîné comme un sparadrap cette attaque de député Godillot.
C'est vrai.
Parce qu'une grande majorité issue de la société civile, on a perdu le lien politique avec avec le territoire, etc. Et ça, je veux dire, les détracteurs ont beaucoup appuyé là-dessus.
Hein. Exactement, mais c'est faux, ça correspond pas à la réalité. Après, moi, ce que je fais personnellement, c'est qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, je vais partout à la rencontre des Français. C'est mon 87e déplacement aujourd'hui sur le territoire national. Je vais dans tous les départements d'outre-mer aussi, ce que ne faisaient pas mes prédécesseurs. Parce qu'on ne peut pas dire que nous, politiques, on est loin des gens si on ne va pas vers eux. Donc ça, c'est, je crois, très important de retrouver la proximité du dialogue. Et puis après, c'est ce que je disais ce matin lors de ma table ronde, il faut des résultats. Les Français, en fait, ne peuvent pas avoir confiance s'ils ne voient pas les effets de ce que l'on dit. S'ils auront l'impression qu'on parle, voilà, dans un violon, qu'on raconte des balivernes, parce qu'ils n'en voient pas les résultats. Et donc, le résultat de l'action politique, c'est absolument essentiel pour retrouver la confiance. Et moi, je crois profondément qu'il faut parler à l'intelligence des gens. Les problèmes du monde d'aujourd'hui sont des problèmes d'une complexité abyssale. Et on ne peut pas résoudre ces problèmes complexes avec des solutions simples. Ça n'existe pas. C'est faire croire aux gens que finalement, c'est les endormir et les embobiner.
Est-ce que l'hyper-décentralisation est peut-être un des remèdes pour retisser le lien de confiance avec les citoyens? Je dis ça parce que j'ai en tête Andy Burnham, qui est fortement possible le prochain locataire du 10 Downing Street, qui était le maire du Grand Manchester. Et lui, vraiment, on l'appelle King of North. Hein, c'est ouais. Pour reprendre voilà, les Game of Thrones. Mais c'est celui qui a allié toutes les petites villes désindustrialisées du Nord et qui a fait un petit peu recette sur le local, loin de Londres. Mais ça marche et il a l'air d'être sincère là-dessus.
Mais je crois qu'effectivement, plus de décentralisation, rapprocher la décision des citoyens, ça veut dire aussi donner plus de pouvoir au local, plus de il faut qu'on ait des compétences qui soient beaucoup mieux identifiées, recentrer l'État sur ses compétences propres et faire confiance aux citoyens, faire confiance aux acteurs locaux, faire confiance aux corps intermédiaires pour avoir un pouvoir qui soit plus proche des gens. Je pense que ça, c'est une des vraies clés du retour de la confiance.
Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe? Moi, j'ai personnellement du mal à saisir des sondages qui nous montrent un peu partout en Europe une envie d'Europe. Et d'ailleurs, je vais même en Grande-Bretagne, où vous avez une grande majorité des Britanniques qui regrettent le Brexit et qui veulent plus de coopération européenne. Vous avez une grande majorité de Hongrois qui ont dit non à l'ère Orban, après 16 ans de Orban. Ouais. Vous avez une énorme majorité d'Européens qui fustigent le Trumpisme et qui ne voient plus les États-Unis comme un allié fiable. Et à côté de ça, des raz-de-marée populistes.
Mais justement, quand je dis qu'il faut être solide sur ses fondamentaux, évidemment, le fondamental Europe, il doit être extrêmement présent dans la vision et le programme qu'on propose. On sait tous qu'on est un timbre-poste à l'échelle du monde si on est simplement entre Français. On doit être très pro-européen parce que c'est la bonne échelle. Maintenant, on voit bien qu'il y a tout un tas de choses à faire avec l'Europe parce que l'Europe ne fonctionne pas très bien et ça, les concitoyens le perçoivent aussi parfaitement. Donc il faut aussi écouter et ne pas se dire que les gens se trompent tout le temps. Il faut faire confiance au bon sens des gens aussi.
Une de mes dernières questions, Yael Braun-Privé, comment vous, en tant que présidente de l'Assemblée nationale, vous abordez les menaces d'ingérence russe sur cette période électorale? On sait qu'ils sont extrêmement actifs, que c'est une guerre hybride qui se brutalise, qui change de nature, qui parfois devient même opérationnelle, et qui est venue percuter la plupart des dernières élections en Europe. Est-ce qu'il faut mettre une forme d'armure à l'Assemblée nationale pour lutter contre les ingérences russes? Comment est-ce qu'on se prépare à ça?
Alors, l'Assemblée nationale est déjà bien protégée, mais effectivement, on peut avoir des attaques qui existent aussi sur le site de l'Assemblée nationale, et il y en a eu. Mais en tout cas, protéger le cœur de la démocratie qui est l'Assemblée nationale, c'est protéger nos systèmes de vote, c'est protéger nos systèmes d'information, c'est aussi faire en sorte qu'on puisse disposer demain d'outils d'intelligence artificielle souveraine dans l'aide à la législation, etc. C'est ce qu'on est en train de développer. On avait aujourd'hui et demain un hackathon à l'Assemblée nationale.
Je crois que vous rentrez justement là-dessus demain.
Je rentre exactement pour ça demain à Paris, parce qu'il est fondamental qu'on s'empare de ces enjeux-là, parce que c'est notre démocratie.
Le domaine de l'IA, c'est un domaine dans lequel il faut être offensif.
Exactement, parce que c'est là.
Merci beaucoup Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Merci beaucoup.
Voilà, donc avec Yaël Braun-Pivet, nous avons vu quels peuvent être ces points de repère peut-être pour avoir une boussole démocratique dans ce monde percuté par les chocs géopolitiques et une instabilité grandissante. On continue ce tour de table avec mes invités ici depuis le parc Jourdan d'Aix-en-Provence. On parlait de boussole politique. Là, j'aimerais parler de boussole énergétique avec vous, Aymeric Renaud. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Vous êtes le directeur général de Schneider Electric France. J'allais dire bienvenue et aussi presque bravo. Hein. On était juste avant avec la chef du bureau du Nikkei en France, dont on parlait, qui a interviewé il y a quelques semaines le président de SoftBank. SoftBank, c'est peut-être l'investissement le plus spectaculaire des dernières décennies en France, à plus de 70 milliards pour les data centers en France, dans le nord de la France. Et pour cela, le japonais SoftBank s'appuie sur un partenaire industriel, et c'est vous.
Exactement, tout à fait. C'est Schneider Electric. Donc on est le partenaire technologique et le partenaire industriel de SoftBank. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire déjà, en tant que partenaire technologique, le groupe Schneider Electric va pouvoir offrir l'intégralité de son savoir-faire dans le domaine des data centers sur la partie approvisionnement. Donc aujourd'hui, on fait tout ce qui a trait à la distribution électrique. Ça regroupe des équipements type moyenne tension, basse tension, des onduleurs, et également tout ce qui a trait au refroidissement. Et pourquoi le partenaire finalement industriel? Parce que dans le cadre de l'implantation de ces data centers, Schneider Electric va ouvrir une usine à Dunkerque aux côtés du data center pour assembler l'intégralité de ses composants dans ce qu'on appelle des préfabriqués. Donc dans le monde du data center, c'est comme des containers. On met les équipements électriques, on va les assembler à Dunkerque et ensuite on les disposera dans le data center.
C'est courant de faire une usine d'assemblage exprès pour un projet de data center, ou c'est quelque chose qui n'est pas courant et qui témoigne du gigantisme de ce projet industriel?
Alors je pense qu'il faut effectivement positionner quelques chiffres. Si on regarde les 20 dernières années en France, il y a à peu près 400 data centers qui ont été construits sur le territoire français pour 1,5 gigawatt de puissance. Le projet SoftBank, il est en deux phases. Une première phase de 3,1...
Pour ceux qui n'ont pas forcément les ordres de grandeur, ça 1,5 gigawatt,
c'est un peu plus qu'une tranche nucléaire en termes de consommation, donc je pense que ça donne un bon ordre d'idée. Et sur la première phase du projet SoftBank, c'est 3,1 gigawatts qui vont être installés. C'est-à-dire qu'avec un seul projet sur la première phase, on va finalement installer l'équivalent du double de ce qui a été construit en 20 années en France. Et je pense que ce chiffre, il parle de lui-même. Et on voit cette accélération, notamment aux États-Unis, où énormément de structures de ce type-là ont été mises en œuvre. Et on voit aujourd'hui cette vague arriver sur l'Europe.
Si je comprends bien, dans le process industriel, là où vous avez intéressé SoftBank et vous en faites le choix de la France, c'est qu'on est sur des projets de méga fermes de data centers qui vont pouvoir cracher des puissances de calcul intéressantes et peut-être mettre la France dans la course, ça vous nous le direz. Mais surtout, on a la capacité en France de raccorder rapidement ces fermes à des réseaux de distribution qui sont très haut débit. Et ça, c'est des solutions de raccordement qu'il n'y a pas forcément ailleurs en Europe.
Alors l'enjeu principal quand on implante un data center, c'est l'accès à l'énergie. Et aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir un parc nucléaire hydraulique, en renouvelable, qui produit et qui produit en excédent. C'est l'équivalent d'ailleurs en puissance de presque 15 gigawatts qui sont disponibles au raccordement, donc l'équivalent presque de 15 tranches nucléaires qui pourraient être raccordées avec de la consommation. La deuxième chance qu'on a en France, c'est qu'on a un réseau de distribution et de transport, RTE Enedis, qui transporte bien l'électricité. Et donc quand on fait la combinaison d'une énergie qui est effectivement abondante, qui est décarbonée également et qui est bien distribuée, si on a du foncier, on accélère la possibilité de la mise en œuvre de projets de cette taille-là. Et évidemment, après, il faut des partenaires qui connaissent cette filière-là. Et c'est là où Schneider Electric intervient, au travers d'une usine de préfabriqués à Dunkerque, mais également nos 25 usines sur le territoire français, pour pouvoir alimenter en matériel électrique ce projet.
J'allais justement vous poser la question, élargir un peu la focale. Aujourd'hui, comment être compétitif en Europe? Là, on a un exemple précis. On voit bien que l'Europe est en pleine, et c'est un des grands sujets de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Comment l'Europe peut exister alors qu'elle est prise en tenaille entre la Chine et les États-Unis? L'atout énergétique de l'Europe et en particulier de la France, ça c'est quelque chose qui peut être un élément différenciant ou en tout cas nous permettre de rester dans la course.
Effectivement, pour la France, c'est un point extrêmement différenciant. Cette énergie abondante et décarbonée, elle permet justement de lancer des projets à grande échelle et dans le monde du data center qui est à la recherche justement de puissance importante en termes de fournisseurs d'énergie, c'est une réponse pour accueillir ces nouveaux sites. Et après, évidemment, il faut un outil de production qui soit compétitif. Donc là, dans les usines Schneider Electric, on a énormément automatisé, digitalisé pour gagner en productivité et construire du matériel à la fois de qualité, mais avec des coûts optimisés pour pouvoir servir ce type de projet.
Un des boss du BCG, du Boston Consulting Group, que j'écoutais ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence, alertait l'Europe en disant qu'elle est un peu à un moment de vérité et que si elle veut être dans le mouvement et ne pas décliner, voire mourir, il faut passer par des choses très concrètes et notamment robotiser beaucoup plus vite les usines et gagner en puissance de calcul. Vous partagez ce diagnostic ?
Alors la robotisation, l'automatisation, c'est effectivement clé dans l'industrie. Pourquoi ? Parce que derrière, on a des opérateurs qui sont très sachants en France, qui ont beaucoup de compétences, et l'arrivée de ces technologies leur permet justement de gagner en productivité, c'est-à-dire que on va produire plus vite, plus rapidement, de façon plus qualitative, et cela, ça permet à l'échelle mondiale d'avoir des produits qui sont beaucoup plus compétitifs.
Il faut peut-être aussi rappeler l'enjeu. Vous nous avez parlé, donc voilà, les data centers, c'est avoir de la puissance de calcul. Là, on n'est pas sur un sujet juste technologique. Avec là, ça devient un sujet géopolitique, l'IA. Je dis ça parce que le voilà, on en parle de plus en plus, mais on a quand même une course entre Xi Jinping et Donald Trump qui font course en tête et qui ont compris peut-être avant les autres que celui qui sera le maître de l'IA sera le maître du monde quelque part. Et donc le sujet devient géopolitique.
Le sujet devient géopolitique. L'IA permet des transformations extrêmement importantes. On l'a vu avec l'IA générative, l'IA agentique. Donc il y a beaucoup de modèles qui sont développés et qui amènent de la productivité. Et le fait d'avoir ses propres modèles de langage et si possible européens et souverains, et je prends le cas de Mistral, c'est gage de pouvoir opérer des modèles qui seront sur territoire européen et qui produiront cette valeur sur le sol européen. Donc il est effectivement urgent à la fois de se doter de capacités de calcul dans le monde de l'IA et d'aller à grande vitesse, et par ailleurs développer dessus des modèles de langage de préférence européens pour ne pas effectivement de dépendre de modèles qui ne seraient pas développés sur le territoire.
Et donc entre notre énergie décarbonée, nos cerveaux, nos centres de recherche fondamentales comme liés à NormalSup, au plateau de Saclay, etc., tout ça mis bout à bout, vous pensez que la France peut rester dans la course de l'intelligence artificielle ?
Alors moi j'ai une vision optimiste, ouais. C'est-à-dire qu'on a tous les ingrédients pour réussir, comme vous l'avez dit, l'énergie, les compétences, des champions, et ce qu'il faut c'est évidemment accélérer sur ce déploiement à l'échelle, et c'est là qu'est tout l'enjeu. Il faut déployer vite pour pouvoir rattraper notre retard et rester compétitif à l'échelle mondiale.
Face au dérèglement climatique, je pense aux chaleurs extrêmes, à la canicule qu'on vient de traverser, justement, est-ce qu'il y a aussi urgence à accélérer les solutions électriques et décarbonation en France ?
Alors nous, c'est une conviction profonde pour Schneider Electric. On intervient énormément dans des projets de décarbonation. Alors pourquoi l'électrification ? Parce qu'en France, cette électricité, comme on l'a dit, elle est produite et elle est décarbonée. Donc elle permet de contribuer fortement aux enjeux de décarbonation. Et par ailleurs, là encore une fois, on est dans une problématique de passage à l'échelle. Il y a des technologies qui existent. On a la possibilité de les intégrer avec des solutions qui sont économiquement viables. Maintenant, il faut une filière d'intégrateurs, de distributeurs pour les mettre justement sur le terrain, dans nos usines, dans nos bureaux et passer à l'échelle rapidement pour pouvoir contribuer positivement et décarboner notamment la France et plus largement le monde.
Passionnant. Merci beaucoup Aymeric Reynaud. Je rappelle, vous êtes directeur général de Schneider Electric France. Et puis, ça fait du bien aussi d'avoir une note positive et d'optimisme dans ce monde de plus en plus instable, dans ce monde en manque de repères. C'est bien sûr la thématique aujourd'hui qui nous réunit ici à Aix-en-Provence aux rencontres économiques d'Aix où on a notre studio délocalisé. On vous propose pendant cette demi-heure d'essayer d'avoir quelques points de repère sur des sujets fondamentaux, d'avoir avec Yaël Braun-Pivet, on vient de l'entendre, comment retrouver notre boussole démocratique pour rétablir le lien, le ciment entre les citoyens et leurs institutions. On vient de voir cette boussole énergétique avec le directeur général de Schneider Electric France qui, à travers notre capacité d'électricité décarbonée, nous rappelle qu'il y a peut-être des raisons d'espérer d'avoir des décisions d'investissement extrêmement fortes en France. Et puis, pour terminer ce tour de table, j'aimerais bien essayer d'avoir quelques repères aussi dans le domaine climatique et assurantiel avec vous, Jean-Philippe Dognotion. Vous venez de nous retrouver, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et bienvenue, très heureux de vous recevoir.
C'est un grand plaisir.
Vous êtes le directeur général de La Massif. Ravi de vous retrouver parce que voilà, j'étais en train de voir, nous on est en manque de repères ici. Hein. On veut essayer d'avoir quelques boussoles. On enchaîne les chaleurs extrêmes, les canicules extrêmes. Alors nous, je ne veux pas sur BFM Business reprendre rebondir sur cette polémique, sur l'inaction des pouvoirs publics, etc. J'aimerais au contraire essayer d'explorer les solutions avec vous, hein, parce que nous, on est là pour essayer de comprendre quelles solutions on peut avoir pour l'avenir. Déjà, au niveau du diagnostic, ce que j'ai trouvé intéressant, il y avait des rapports publiés ces derniers jours, dernières semaines, notamment un de la Banque mondiale, qui nous explique que face au dérèglement climatique, le coût de l'inaction est bien plus grave que les investissements pour s'adapter au réchauffement climatique. Ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à intégrer, mais vous, en tant qu'assureur, quel diagnostic vous posez et comment vous essayez de vendre cette idée ?
Alors d'abord, nous sommes un assureur qui couvre 6,5 millions de sociétaires, de clients France entière sur la métropole. Donc on couvre à peu près tous les territoires. C'est dire qu'on est vraiment représentatif de la vie de notre pays et de nos sociétaires. On vit et on vibre avec eux sur les questions climatiques. Alors que nous disent-ils nos sociétaires et que voyons-nous ? Ils nous disent, le climat se dérègle depuis 20 ans, ça s'accélère, l'improbable devient probable, l'extrême succède à l'extrême et il faut bien regarder ce côté humain que l'on néglige trop parce qu'on parle de coûts, mais c'est une vraie crise sociale potentiellement qui couvre derrière.
Vous voulez dire que les esprits sont mûrs subissent et qu'ils font le constat après coup ?
Oui, il y a une vraie prise de conscience de ce qu'est le phénomène climatique. Je crois que désormais on est mature. Et puis sur les chiffres, la chose se présente aussi de manière très claire. C'est un doublement de la partie sinistre sur les dernières années par rapport aux 10 années précédentes. C'est à peu près 5 milliards d'euros par an en France. C'est 130 milliards dans le monde. Et on voit bien que ça va croître à nouveau. La projection donne un doublement d'ici à 2050. Voilà le diag. C'est évidemment assez sombre. La question qui vient immédiatement après, c'est de se dire, quand on est un observatoire social et économique comme nous le sommes en tant qu'assureur, qu'est-ce que l'on peut faire ? Première question, est-ce que nous avons lâchement abandonné les territoires ? La réponse, elle a été donnée très récemment par l'Observatoire de l'assurabilité, par la Caisse centrale de réassurance. Dans 98% des cas sur la métropole, nos sociétaires, nos clients trouvent des assureurs. 2% de tension, mais généralement parce qu'il y a une densité insuffisante finalement de personnes, mais c'est plutôt facile à couvrir. Donc non, les assureurs n'ont pas lâché les territoires pour une raison qui est assez simple. Ça fait plus d'un siècle que les assureurs font de la mutualisation et essaient de couvrir le plus largement possible le monde. Est-ce que ça veut
mais
dire...
À l'avenir...
Et voilà la question.
À l'avenir, est-ce que vous pourrez continuer à tout assurer ? Est-ce qu'aujourd'hui, des logements ne deviendront inassurables ?
Et alors, on vient à cette question, on ne peut pas faire l'autruche, et qu'avons-nous à traiter ? On a d'abord une dette, un passif, parce que pendant de longues années, les constructions se sont faites dans des zones qui étaient très exposées, des zones inondables. D'autre part, on a construit des maisons...
Des bouilloires thermiques aussi.
Des bouilloires thermiques. On a construit des maisons qui étaient finalement sur de l'argile et sans fondation ou sans analyse de sol. Et ces maisons-là, elles bougent. Donc on a ce passif qu'il va falloir gérer. Et puis il y a l'avenir. L'avenir, c'est comment on construit demain, sous quelle forme, avec quels matériaux résilients, avec quel type d'analyse, avec quelles précautions et à quels usages nouveaux on prend en compte. Et ça, c'est deux dimensions qu'il va falloir traiter, la dette et l'avenir.
Mais est-ce que quand on est aujourd'hui un sociétaire ou un assuré, est-ce que si on se projette, on se dit, ok, j'ai le choix entre être inassurable ou augmentation des cotisations ? Est-ce que c'est l'un ou l'autre ?
En fait...
C'est trop binaire, ce que je vous dis.
Oui, mais quelles sont les alternatives ? Soit on reste sur le modèle actuel qui est très couvrant et qui prend en charge les sécheresses, les inondations, les périls, les grêles, etc. Soit on reste sur ce régime-là, couvrant. Soit on va sur un modèle anglo-saxon qui est hyper segmenté, à chacun selon ses moyens. Soit même, c'est la majorité des pays, un certain nombre de périls ne sont pas couverts. Les sécheresses ne sont pas couverts.
Vous parlez du régime des quatre nattes?
Oui, le régime des catastrophes naturelles, c'est quoi factuellement?
C'est une exception française, je crois.
C'est une pépite. C'est 42 euros par foyer et par an. Vous êtes couvert sur les sécheresses, sur les inondations, sur le mouvement de terrain, voire sur le tremblement de terre. Et tout cela dans un modèle qui fait que tout le monde paye sa quote-part. Et c'est parce que tout le monde paye qu'on arrive à absorber les grands chocs. Ouais. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la sécheresse, par exemple, elle touche une maison sur deux, une maison individuelle sur deux. Et donc la prime va vraisemblablement augmenter.
Le 4 nat a été pensé en quelle année?
82.
D'accord, donc en 80, il a été pensé à une époque où on n'avait pas encore ce choc sous dérèglement climatique.
Il n'y avait pas le dérèglement climatique, mais il y avait quand même du bon sens qui consistait à dire on met un régime très original, très couvrant, mutualisé, où tout le monde paye, mais surtout, disait-on à l'époque, il ne faudra pas construire n'importe où. La réalité, c'est qu'on a construit n'importe où. C'est ça qu'on paye comme dette en réalité.
Mais est-ce qu'il faut revoir les contours de 4 nattes quelque part pour mieux l'adapter aux enjeux de notre époque?
On peut l'amender, mais comme je le disais, il n'y a pas 36 miracles. Il y a une solution mutualisée, il y a une solution selon nos moyens ou une solution où on ne couvre pas tous les périls. Et moi, je suis d'avis de couvrir un maximum de périls. Il faut que l'assurance reste accessible. Mais 42 euros, ça va évoluer dans le temps. J'ai dit que le coût climatique va doubler. S'il double, on peut penser que la cotisation finira par doubler ou tripler. Mais je vous parle quelque chose qui va atteindre peut-être 150 euros à l'horizon un peu lointain de 2040 ou 2050. Donc il faut limiter le risque à la fois par sa valeur, mais aussi par l'atténuation. Ce sont les mesures de prévention. Un assureur doit être un préventeur et doit s'engager dans la prévention.
Un assureur doit être un préventeur, nous dit Jean-Philippe Donnieton, le directeur général de la Massif. Merci beaucoup d'être venu sur notre studio délocalisé de BFM Business. Voilà, j'étais très heureux de passer cette heure et demie en votre compagnie depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. J'espère qu'on a pu vous apporter quelques points de repère avec mes experts sans frontières et avec nos invités, hein, sachant que le thème ici, c'est bien sûr comment naviguer dans un monde sans repères. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et surtout, vous allez rester avec nous demain matin, vous connecter parce que ça va être spectaculaire. Nous serons toujours depuis notre studio à Aix. Vous aurez bien sûr samedi matin en direct les experts de Raphaël Legendre et ensuite les grands entretiens d'Edwige Chevrillon où elle aura entre autres, allez, je vous le dis en mille, Patrick Pouyanné, le patron de Total Energy, mais aussi le président du MEDEF ou la nouvelle présidente de La Poste. Vraiment que des profils haut de gamme qui seront dans les grands entretiens d'Edwige Chevrillon. Très bonne soirée à tous et puis tout de suite, vous allez avoir un best-of des chroniques IA et des chroniques tech de Anthony Morel. Allez, très bonne soirée à tous sur BFM Business.
Les experts sans frontières sur BFM Business.